11, nous allons retrouver David, non pas dans 1 Samuel ou 2 Samuel, mais dans un psaume que nous allons lire, commencer par lire, psaume 11. Psaume 11. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Jusqu'ici, cette lecture. Alors, ce psaume cadre bien dans le thème de la sécurité que nous avons considéré ce matin, puisque à travers ce psaume, on voit que David exprime vraiment sa sécurité en Dieu. Alors, on ne sait pas facilement situer ce psaume dans l'expérience de David. Alors, on se souvient que David est un homme qui a eu beaucoup de tribulations dans sa vie. C'est un homme qui a fui beaucoup. Il a fui Saül, il a fui son fils Absalom. Alors, est-ce que ce texte se situe, est-ce que David relate cette confiance qu'il avait en Dieu dans ces situations? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il est certain que le contexte même pour ce psaume est un contexte de grande difficulté et de danger imminent que l'on peut voir ici. Donc le psaume se divise en gros en deux parties, verset 1 jusqu'au verset 3, on peut le voir facilement. Et puis après au verset 4, il y a cette seconde partie. Une première partie dans laquelle David exprime sa confiance, et puis une seconde partie dans laquelle David montre sa méditation sur ce qu'il sait de Dieu. Il médite sur l'Éternel. Alors, il y a dans ce psaume une question qui est posée, qui est un peu au point milieu entre la première partie et la seconde. C'est le verset 3, où David dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ?» Et on peut penser, avec toutes ces situations vécues par David, qu'il a vu s'effondrer tout ce qu'il y avait autour de lui. Il a dans beaucoup de domaines. Et la question qu'il pose ici sous-entend que le juste, c'est-à-dire celui qui est vraiment un enfant de Dieu, doit attendre on doit s'attendre de lui à une certaine attitude, parce qu'il pose la question ici, quand les fondements sont ébranlés, quand les fondements vacillent, le juste, que fera-t-il? Donc il y a quelque chose qui est attendu du juste, de celui qui prétend être un enfant de Dieu dans les temps de crise. Et le titre que j'ai donné à cette méditation, c'est « La réponse du juste en temps de crise ». La réponse du juste en temps de crise. Quand les fondements, verset 3, sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et quand on regarde autour de nous, on a l'impression souvent que plusieurs fondements sont renversé. Alors, on pourrait penser au fondement politique. On assiste à parfois à la ruine des fondements politiques. Il faut être aveugle pour ne pas voir la corruption parfois dans plusieurs pays, peut-être certains pays plus que d'autres, mais la corruption qui gangrène la politique. Plus personne, on dit en France que plus personne ne fait confiance à la politique. Les hommes politiques ou la politique en général a perdu la confiance des citoyens. On peut considérer la ruine des fondements économiques aussi. On n'a pas encore relevé la tête, je crois, des de cette crise avec les gilets jaunes, qu'on est tombé dans une crise sanitaire et qui annonce encore plus que cela une crise, nous dit-on, économique. Hein. Et il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui sont suscitées par cela-là. On peut considérer la ruine des fondements sociaux aussi, hein, le lien social se distend. Il y a beaucoup de manifestations, de grèves, de ceci, de cela. On peut penser à la ruine des fondements familiaux. La famille est galvaudée, hein, à notre époque. Chacun vit sa vie à part. Les foyers sont disloqués. On n'a plus la structure biblique que l'on trouve dans les foyers. On a laissé aux politiques le soin de définir ce qu'on appelle la politique familiale. C'est l'État qui décide ce que les familles doivent faire, comment elles doivent vivre. Et on assiste certainement, plus de nos jours que jamais, à des fondements familiaux qui s'effondrent. David lui-même a vécu cette expérience. Il y a eu beaucoup de tribulations dans sa famille. Alors, en partie à cause de son péché, hein, avec Bathsheba, mais il a connu beaucoup de tribulations au sein de sa famille, avec Michal, sa femme, avec son prédécesseur Saül, avec des amis. Il y a eu beaucoup de situations où il a vu s'effondrer autour de lui, on pourrait dire, ce qui, normalement, aurait dû constituer un fondement sûr. On peut parler aussi de la ruine des fondements éthiques, hein, dans notre société. Combien de choses sont votées qui sont fondamentalement contraires à la loi morale de Dieu. Et on peut parler aussi des fondements, on a parlé de la sécurité, mais la ruine des fondements sécurité. On ne se sent plus en sécurité. Hein. Quand il y a eu, rappelez-vous, les attentats, hein, quelle peur on avait, et même actuellement dans cette crise sanitaire que nous traversons, hein, il y a beaucoup de peurs qui sont engendrées. On ne se sent plus en sécurité. Alors quand la question que pose David ici, c'est quand tous ces fondements s'écroulent, le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Quand les fondements, même parfois spirituels aussi, hein, semble s'écrouler, parce que malheureusement, hein, on voit de plus en plus un éloignement des valeurs spirituelles, même au sein de foyers dits chrétiens, où les valeurs spirituelles ont laissé la place aux valeurs télévisuelles, parfois. Hein. Le siècle a vu naître le relativisme, on a tenté de mettre Dieu dans le fil de la raison, et les chrétiens s'appuient parfois davantage, malheureusement, sur leurs opinions qu'ils ont des choses, que sur la parole de Dieu. Et donc si ces fondements ne sont pas tous également vacillants, mais on ne peut pas nier qu'ils sont au moins fragiles et qu'ils menacent, hein, de s'écrouler et qu'ils menacent de perdre leur stabilité. Alors, dans tout cela, David pose la question ici, le juste, que fera-t-il? Lui, il est qui est attaqué de toutes parts, assailli de toutes parts, qui a vu sa famille se disloquer, qui s'est retrouvé souvent tout seul. Il pose la question, quand les fondements s'écroulent, le juste, que fera-t-il? Alors, il donne la réponse dans ce psaume que nous avons lu. Donc, regardons encore le psaume 11, ici, ce que David dit dans ce psaume, au verset 1, au chef des chantres de David, il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Voilà la première réponse que doit fournir le juste. Il doit rechercher en l'Éternel son refuge. Le besoin le plus urgent, quand on est en temps de crise, est celui d'un refuge. Il a besoin de pouvoir trouver quelque part une protection. Alors, ça peut être, prenez n'importe quel domaine de la vie, hein, quand dans ce domaine on est en crise, on cherche un refuge, que ce soit financièrement, que ce soit médicalement, que ce soit parce que sécuritairement, parce que l'intégrité physique est attaquée, on cherche toujours un refuge, une protection. Et beaucoup de choses semblent parfois constituer un refuge, mais David affirme avec force ici que c'est en l'Éternel qu'il cherche un refuge. C'est la première action, on pourrait dire, du juste. C'est la première réponse du juste. C'est ce qu'on trouve aussi exprimé dans le prophète Joël. Il dit ceci en Joël chapitre 3 et au verset 16. Il dit « De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. » On trouve notre mot encore ici. « Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. » Donc, quand les choses vacillent, il dit ici, le prophète Joël dit, « Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. » Et donc, ce que l'enfant de Dieu doit faire, ce que le chrétien doit faire, ce que David montre ici, c'est que dans temps de crise, il faut premièrement rechercher en l'Éternel son refuge. Celui qui est l'Éternel. Quand David dit l'Éternel, il faut penser à ce nom. C'est celui, le mot éternel veut dire celui qui existe par lui-même, qui est tout suffisant, qui n'a besoin de personne pour exister. D'accord? Il vit par lui-même, il existe par lui-même. Et donc, c'est en lui que David se confie. Celui qui est de toute éternité. Les gouvernements passent, se font et se défont. On pourrait dire aussi que, bon, les situations se font et se défont. Mais lui, il demeure éternellement. D'éternité en éternité, le psalmiste, tu es Dieu. Et donc, David se confie en celui qui est l'Éternel. C'est un mot dans lequel on ne peut pas le prononcer simplement sans penser à ce que cela veut dire. Celui qui est de toute éternité. Ça m'a fait penser quand quelqu'un veut exprimer qu'il est au-dessus de quelque chose. Parfois, il dit « Moi, j'en ai vu passer. » Un collègue disait « Moi, j'en ai vu passer des proviseurs. » C'est une manière de dire « Ils sont passés. Moi, j'ai toujours été là et je les ai vus passer. » Donc, c'est pas celui qui arrive qui va changer quelque chose. C'est une faible, une manière faible de le dire, mais c'est un petit peu la même chose ici. C'est-à-dire que Dieu est de toute éternité, et ce ne sont pas les situations qui changent, en dessous qui vont changer quelque chose. Il est éternel et au-dessus de toutes ces choses. Et David, donc, ne met pas sa confiance dans une solution, dans une méthode, dans une technique, dans une compétence, dans une stratégie, mais dans le Dieu qui est, comme nous le disons dans notre catéchisme, esprit infini, éternel et immuable dans son être, sa sagesse, sa puissance, sa sainteté, sa justice, sa bonté et sa vérité. Donc il dit, voilà, c'est en l'Éternel, celui qui existe de tout temps, qui existe par lui-même, que je cherche un refuge. Alors David s'enfuit, manière de dire qu'il s'enfuit sous la protection de l'Éternel, il place sa confiance en l'Éternel, il espère en l'Éternel. Et qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Parce qu'on peut lire, on peut chanter, l'Éternel est mon refuge, ou l'Éternel est ma sécurité. Mais quand David dit cela, qu'est-ce qu'il entend? Puis il dit, je cherche, c'est-à-dire qu'il va, il y a quelque chose qui est dynamique ici, qui relève d'une dynamique, il n'est pas passif, il va chercher à mettre sa confiance dans l'Éternel, à faire de l'Éternel son refuge. Et je pense qu'on a une petite explication de cela. Quand on lit un autre psaume, le psaume 142, regardez le psaume 142, et à partir du verset 1, David dit ceci, psaume 142, et David est dans une situation, c'est un psaume qu'il a écrit après d'être, quand il était, il dit, dans la caverne, c'est un cantique qu'il chante quand il est dans la caverne. Et vous vous rappelez, plusieurs fois, il était dans la caverne, poursuivi par Saül, poursuivi par Absalom, son fils. Et il dit ceci, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, psaume 142, prière, de ma voix, je crie à l'Éternel. Toutes ces choses, je pense, signifient ce qu'il veut dire quand il dit, je cherche l'Éternel mon refuge. Je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel, je le supplie. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Et cela, il va répandre son âme devant Dieu. Il va dire à Dieu tout ce qui le concerne, tout ce qu'il ressent, toute sa détresse, toute sa tristesse. Il va placer cela, il va le dire, il va le prononcer devant Dieu. Comme quelqu'un, vous avez déjà parfois rencontré des gens qui sont dans des situations difficiles, qui viennent vous parler, et ils parlent, ils vous racontent leur situation, ils répandent leur âme quasiment devant vous. David dit ça, je le fais devant Dieu. Je le fais devant Dieu. Il dit quand, verset 4, « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Il dit « Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. » Il parle de sa difficulté. « Jette les yeux. » Il demande à Dieu de regarder. Il regarde. « Personne ne me reconnaît. » Et regardez ce qu'il dit, humainement parlant. Il dit « Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. » Ça, c'est ce qui est le constat qu'il fait auprès des hommes. Mais verset 6, il dit, « L'Éternel, Éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Et donc, David souligne ici, je pense, dans ce psaume, ce qu'il fait quand il place sa confiance en Jésus. Quand il cherche son refuge en l'Éternel. Ce ne sont pas des vains mots. Ce n'est pas juste un cantique qu'il chante, « L'Éternel est mon refuge. » Non, mais c'est une réalité qu'il vit, c'est-à-dire qu'il va parler Dieu, qu'il va lui confier son état d'âme. Il va le supplier, il va crier à Dieu, il va s'attendre à lui, il va considérer qu'il n'y a aucun salut pour lui parmi les hommes et que c'est seulement en Dieu, en l'Éternel, qu'il peut placer sa confiance. Et donc c'est en lui qu'il va en premier, c'est à lui qu'il va en premier. Il affirme ce qu'il dit, ne sont pas simplement des mots, une théorie, mais il parle vraiment d'une expérience qu'il développe avec Dieu au sein de sa tristesse. Et c'est là ce que doit faire le juste quand les difficultés s'amoncellent et que les fondements semblent s'ébranler. La confiance en Dieu procure une stabilité intérieure. Et quand David dit ici, dans le psaume 11 que nous avons lu, « C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge », c'est parce que c'est là seul qu'il trouve une véritable paix intérieure et une stabilité. Psaume 125, verset 1 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. » Et cette montagne, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et donc, voyez, ses amis lui disent, « Fuis vers les montagnes parce qu'il y a le danger. » Et David dit quelque part, ce n'est pas dans la fuite, on pourrait dire, vers les montagnes que se trouve la sécurité ou la stabilité intérieure, mais dans la confiance en l'Éternel qui nous rend comme la montagne. Ce qu'il dit ici, vous voyez, il dit, celui qui se confie, psaume 125, en l'Éternel, est comme la montagne de Sion, elle ne s'ébranle pas, elle est affermie pour toujours, elle ne chancelle point, il y a une stabilité, une paix intérieure qui est procurée par la confiance véritable que l'on place en l'Éternel. Et celui qui se confie, qui s'accroche, qui s'attache, comme David le fait au psaume 142, eh bien, il est affermi. Donc, première chose, première réponse, on pourrait dire, du juste ici, c'est de placer vraiment sa confiance, de chercher en Dieu son refuge. Deuxièmement, ici, deuxième réponse ici que David apporte, c'est résister à la tentation, comment je vais dire, d'une conduite qui est contraire à la profession de foi. Résister à la tentation d'une conduite qui serait contraire à la profession de foi. Regardez encore le verset 1 du chapitre 11. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Il semble ici que les compagnons de David, alors on ne sait pas si c'est lui-même qui pense cela, mais ou si c'est peut-être des gens, des amis qui lui suggèrent cela, en tout cas, ses compagnons, ils font face à la menace, David fait face à la menace dont il est l'objet, et ils sentent peut-être qu'eux aussi font face à cette même menace, ici, et ils conseillent David en toute amitié. Ils ne veulent pas la perte de David. Ils lui conseillent ce qu'il semble, qui paraît être le mieux à faire dans cette situation particulièrement difficile. Et ils disent, fuis vers les montagnes comme l'oiseau, ça veut dire loin du mouvement de la ville, loin de la foule. Mais David réagit vivement à ce conseil. Parce que ce conseil renferme une tentation. Et David résiste à cette tentation, qui est une tentation qui est contraire à cette profession de foi. Vous voyez, il met en contraste ici sa confiance en Dieu, le fait qu'il dit « je cherche l'Éternel en refuge » et la solution qu'on lui propose. Il dit « c'est en l'Éternel que je cherche un refuge ». Alors, pourquoi me dites-vous « fuis dans les montagnes » C'est contradictoire. Je ne peux pas avoir les deux choses. Soit je mets ma confiance en l'Éternel, soit je fuis dans les montagnes. Ces choses, pour lui, sont en opposition. Et donc la tentation ici, il discerne ici la tentation d'agir d'une manière qui serait contraire à la foi qu'il professe. Quand on professe croire en Dieu, il faut vivre en conséquence. Quand on dit l'Éternel est mon refuge, il faut vivre aussi en conséquence de cela. Rappelez-vous, on a une illustration avec Esdras. Esdras, dans Esdras chapitre 8, versets 21 et 23, eh bien Esdras doit ramener une certaine partie du peuple, des femmes, des enfants, des hommes, vers Jérusalem. Ça, c'est le retour de la captivité de Babylone. Et le roi lui donne l'ordre de partir, lui donne des choses pour pouvoir partir. Mais seulement la route est extrêmement périlleuse, elle est dangereuse. Et ils savent très bien qu'ils auront à affronter probablement des bandits sur la route qu'ils vont traverser avec les femmes, les enfants et tout cela, et qu'ils ont besoin de protection, ils ont besoin de sécurité. Et que va faire Esdras? Écoutez, ou sinon regardez Esdras chapitre 8, versets 21 et 23, si vous n'avez pas trouvé, écoutez, je vais lire pour vous. Il dit, là près du fleuve d'Ahava, Esdras parle, il dit, je publier un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Il a prié Dieu, ils vont jeûner pour que les choses puissent bien se passer. Il dit, j'aurais eu honte, écoutez bien ce qu'il dit, de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant notre route. Et pourquoi est-ce qu'il aurait eu honte? Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invocâmes notre Dieu et il nous exauça. Ce qu'Esdras dit, ici, vous comprenez bien, c'est facile à comprendre, il dit, nous avons dit au roi, nous faisons confiance à Dieu, nous comptons sur lui, il est notre refuge, il est notre sécurité, il est notre protecteur, il est notre guide. Et il dit, et après cela, en pensant à la difficulté de la route, il y a cette tentation qui dit, mais c'est compliqué, il faudrait peut-être avoir de la protection physique. Eh bien, il y a la tentation d'aller voir le roi et de demander une escorte. Il dit, j'aurais eu honte de demander cela parce que j'avais laissé le témoignage que nous avons confiance en Dieu. Vous voyez cela ici? Et donc c'est un peu ce que David dit ici, quand il dit, je cherche l'Éternel mon refuge. Pourquoi me dites-vous? Voilà où je mets voilà où se trouve ma sécurité. Ce n'est pas dans la fuite vers les montagnes. Et Esdras dit, ce n'est pas dans l'escorte que le roi va nous accorder qu'est la sécurité. C'est en Dieu. Alors, même il faut avoir honte. Il a honte de demander et d'être peut-être un mauvais témoignage auprès du roi, c'est-à-dire d'être qualifié d'avoir une piété de surface, une foi de surface qui n'est pas une réelle foi parce qu'il dit quelque chose avec sa bouche, mais il cherche une aide humaine de l'autre côté. Okay? Si Dieu avait, Dieu aurait pu faire miracle pour leur donner uniquement cette aide humaine. Mais il dit, à cause de cela, on a prié, on a jeûné, et ils sont partis sans escorte, dans une route dangereuse. Et il dit, l'Éternel nous a exaucés. Dieu a honoré cette foi. Dieu est capable de garder au sein de n'importe quelle situation. Et donc, il faut résister. David résiste à cette tentation de, une fois après avoir fait la profession de foi en Dieu, la tentation d'agir d'une manière qui serait contraire à sa foi en Dieu. Il faut résister donc à la tentation de mettre l'importance sur le danger ici. Notez comment les amis lui présentent la situation. Ils insistent sur les détails du danger. Car voici, regardez au verset 2 de psaume 11, « Car voici les méchants bandelards qu'ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur tous ceux dont le cœur est droit. » Donc ces méchants, ils ont une intention de faire ce qui est mal, de faire le plus de mal possible. Ils sont déterminés, ils ont des armes affûtées, ils sont opérationnels. Ils attendent le moment favorable pour attaquer. Et tout cela est certainement vrai. David ne dit pas ce n'est pas vrai. Tout cela est certainement vrai. Mais ici, il montre qu'il ne faut pas accorder trop d'importance au danger lui-même. Ses amis sont focalisés sur les méchants, leurs attaques, leurs préparations, ce qu'ils vont faire, etc. Mais lui, il refuse de se laisser tenter par cela. Ses amis lui passent en boucle, on pourrait dire, hein, comme on a maintenant, hein, les mauvaises informations. Et cela va jusqu'à toucher son âme. Regardez, dans d'autres traductions, hein, quand la question de David au verset, que nous avons lu au verset 1, pourquoi, comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes, est traduit comme ceci, donc la traduction beaucoup plus littérale, plus proche du texte, il dit, pourquoi dites-vous à mon âme, fuis dans les montagnes. Vous voyez, c'est-à-dire que dans ce qui est proposé à David, son âme est atteinte. C'est pas juste quelque chose qu'il entend, ça va jusqu'à le toucher. Il sent qu'il y a cette sollicitation dans son âme à agir d'une manière qui est contraire à ce qu'il a professé dans sa confiance en Dieu. Et donc, David ne se laisse pas influencer par ces circonstances qui sont là, par le danger lui-même. Et c'est ce qui nous trouble de nos jours le plus, et ça a toujours été comme cela, Satan a toujours agi comme cela, en mettant l'importance sur les difficultés. Rappelez-vous avec Goliath, par exemple. Lorsque Goliath va à l'encontre, c'est un Philistin qui était grand, géant, énorme, et il va vers le peuple d'Israël pour les défier. Et la Bible dit que tandis, 1 Samuel 17, verset 23 à 24, il dit, tandis que, et qu'il parlait avec eux, voici le Philistin, donc c'est David qui parle avec les Israélites, il dit, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint, écoutez bien, il tint les mêmes discours que précédemment. Vous connaissez déjà le message en boucle, hein? Les chaînes d'information en boucle, ça existait déjà à l'époque. Hein? Parce que la Bible dit, dans 1 Samuel 17, verset 16, je crois, il dit que il s'est présenté devant eux 40 jours, matin et soir, avec le même discours. Voyez? Comme dans nos chaînes d'information où on nous présente les dangers du coronavirus, les dangers de ceci, les dangers de la crise économique. Alors, on ne dit pas que ce ne sont pas des faits réels, mais vous voyez la manière de le passer en boucle, et puis nous sommes devant, nous avalons, nous gobons, eh bien, a un effet néfaste sur la confiance que l'on doit avoir en Dieu. Le juste ne s'attarde pas aux circonstances, mais se souvient que c'est en l'Éternel qu'il doit mettre sa confiance. C'est l'Éternel qu'il doit chercher comme refuge. Donc la tentation de l'importance du danger, la tentation de chercher la sécurité dans les circonstances heureuses. D'accord? C'est comme si les amis de David lui disaient « La foi en Dieu ne suffit pas, il faut ajouter maintenant la sécurité de la montagne. » Ses amis lui disent « Tu as confiance en Dieu, c'est une bonne chose. » Mais il faut maintenant fuir, sinon le mal t'atteindra sûrement. Et beaucoup de gens, souvent, pensent fuir, pensent qu'en fuyant un lieu de difficulté, eh bien, on sera en sécurité. Mais il n'y a de sécurité, le frère l'a dit tout à l'heure, je crois, nulle part qu'en Dieu seul. Où que vous viviez dans le 93, que tout le monde connaît comme les coins difficiles ou ailleurs, ou dans le 7e arrondissement, vous n'êtes pas en sécurité pour autant ici. Et j'aime bien ce passage d'Amos où Dieu dit « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et rencontre un ours, qui gagne sa maison, il s'appuie sur la muraille de sa maison comme ça et il se fait mordre par un serpent. » D'accord ? Il a cherché la sécurité, il fuit. Il fuit, d'accord ? Parce qu'il est devant un lion, on aurait fait pareil, n'est-ce pas ? Et Dieu dit, voilà, ceux qui cherchent la sécurité, d'accord, dans les choses du monde, ils sont comme ça. C'est comme l'homme qui se fuit devant un lion, qui rencontre un ours, il gagne sa maison, il s'appuie sur le mur et il se fait mordre par un serpent et il meurt. Il a fui la mort pour mourir. Okay ? Et c'est comme ça que ça se passe quand on cherche la sécurité dans les circonstances qui sont heureuses. Une autre ville n'est pas plus facile qu'une autre, hein, peut-être plus sécuritaire humainement parlant, mais quand on est un enfant de Dieu, le juste, la réponse qu'il doit apporter, ce n'est pas le changement de situation. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. C'est Dieu qui garde la ville, quelle qu'elle soit la ville. C'est Dieu qui la garde. Okay. Donc, troisièmement, la tentation aussi de se laisser envahir par la crainte commune, ici. Il est évident que les amis de David, ils ont peur et qu'ils essaient, et on sait que qu'ils essaient de l'encourager à fuir, d'accord ? Mais ils essaient aussi de faire en sorte que la peur le gagne, puis pour qu'il puisse suivre aussi, qu'il soit contaminé par la crainte, par l'anxiété de ses compagnons, ici. Mais celui qui place en l'Éternel sa confiance, il ne doit pas se laisser contaminer par l'ambiance, par ce que tout le monde fait. Souvent, dans les temps de crise, dans les temps de situation, hein, nous sommes parfois poussés à penser comme tout le monde. C'est pour ça qu'on a toutes ces informations en boucle. Il faut réagir comme tout le monde, penser comme tout le monde, prendre quasiment les mêmes décisions que tout le monde. Il faut fuir, il faut faire comme ce que les hommes de David lui conseillent ici. Mais l'Écriture dit, n'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration dans Isaïe. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. L'enfant de Dieu est appelé à ne pas craindre ce que tout le monde craint, à ne pas agir comme tout le monde agit, mais à avoir une réponse particulière lorsque les fondements s'écroulent. Et il dit, la suite de ce passage dans Ésaïe 8 dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Quand les situations sont difficiles et que tout s'ébranle, la crainte que l'on doit avoir, la peur qu'on doit avoir, la crainte, ce n'est pas celle de la situation elle-même. Mais c'est craindre le Dieu qui est au-dessus de cette situation. Je crois que c'est dans Ésaïe où Dieu dit au peuple, hein, vous regardez à la calamité, mais vous ne regardez pas celui qui fait la calamité. Et nous avons tendance à regarder à la calamité, à regarder au problème, à regarder au virus, à regarder aux attentats, à regarder à la maladie, et ne pas regarder celui qui est au-dessus de tout cela, et qui fait ces choses, et chercher sa face, comme David l'a fait quand il était au sein de la famine, ici. Donc la tentation de se laisser envahir par les craintes commune. Jésus disait, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et pas le fait que l'on peut partir, que l'on peut mourir, que l'on peut perdre ceci ou que l'on peut perdre cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut être insouciant dans ces situations, mais ça veut dire qu'il faut placer la crainte au bon endroit. Donc David refuse, rejette cette tentation. Il rejette aussi la tentation de fuir la volonté de Dieu. Le réflexe naturel face aux difficultés est la fuite. Mais la fuite n'est pas toujours la volonté de Dieu. La fuite n'est pas toujours la volonté de Dieu. En tant que chrétien, il ne faut pas être trop prompt à adopter ce qu'on appelle le principe de précaution. D'accord? Et on a un exemple avec Paul en Actes 21. À un moment donné, il y a, et Paul reçoit la part d'un prophète, une prophétie qui dit qu'il va être amené à Jérusalem, qu'il va être lié, qu'il sera. Et les chrétiens, il est averti donc d'un danger qui l'attend. Et le premier réflexe des croyants, c'est de dire quoi à Paul? Ce que nous aurions tous fait, ne va pas. Le Saint-Esprit t'informe qu'il y aura des dangers, c'est pour que tu n'y ailles pas, n'y va pas. Et Paul dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir, il dit, pour Christ. Et la Bible dit que quand ils ont vu sa détermination, eh bien, ils n'ont pas insisté et ils ont laissé partir. Ils ont dit, que la volonté du Seigneur se fasse. Et vous voyez, un danger, même averti par le Saint-Esprit, n'est pas une exhortation à la fuite. N'est pas une exhortation à épargner. Pas forcément une exhortation à s'épargner du danger, ici. C'est peut-être la volonté de Dieu qu'il soit. Et David agit de cette manière-là, comme Paul a agi. La volonté de Dieu pour Paul à cet instant était qu'il passe par la souffrance. La souffrance et parfois la volonté de Dieu pour ses enfants. Et celui qui est systématiquement dans la recherche, la disparition de la souffrance, il risque de fuir la volonté de Dieu. Celui qui est systématiquement dans la recherche de la guérison risque de fuir aussi la volonté de Dieu. Nous devons avoir une théologie de la souffrance bien en place. Bien en place. La souffrance fait partie du plan de Dieu. L'apôtre Paul dit même que souffrir est une grâce dans Philippiens chapitre 1 au verset 29, il me semble. La souffrance, il dit, Dieu nous a fait la grâce de croire et de souffrir aussi pour lui. Et donc, il ne faut pas en cherchant, en n'adoptant pas une attitude qui soit conforme à notre profession de foi, tenter de fuir la volonté de Dieu. Donc, deuxième chose, on voit ici, premièrement, David recherche en l'Éternel son refuge, sa première réponse. Sa seconde réponse, c'est qu'il résiste à la tentation d'agir d'une manière qui serait contraire à sa profession de foi. Et puis, dernièrement, troisièmement, il médite les vérités concernant Dieu. Il médite les vérités concernant Dieu. Regardez les versets 4 au verset 7. Je vais le relire de psaume 11. Il dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Et il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice et les hommes droits contemple sa face. À l'inverse, on pourrait dire de ses amis ici, qui insistent sur le danger à venir, David décide de passer en revue les vérités qui concernent l'Éternel. Les vérités sur l'Éternel font l'objet, ici on le voit, de ses pensées. Il ressemble en cela au prophète Jérémie, n'est-ce pas, dans Lamentations, qui dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Vous voyez ici l'attitude de Jérémie, c'est-à-dire que lorsque les choses sont troublantes et que je ne sais plus dans quel sens aller, il dit, voilà ce que je veux faire. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voilà ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. C'est pas comment fuir, comment trouver un meilleur endroit. C'est pas aller vers les montagnes. C'est pas se cloîtrer, se cloisonner, se confiner plus que nécessaire. Ça n'est pas quelle solution médicale je peux trouver. Non, il dit, quand je ne peux plus contrôler toutes ces choses, voilà à quoi je pense. À l'Éternel. Ses bontés qui ne sont pas épuisés. Et David fait exactement la même chose. Regardez comme une fois il parle de l'Éternel dans le psaume ici que nous avons lu. Il dit, l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent. L'Éternel sonde. Il est le méchant et celui qui se perd dans la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en portage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice et les hommes droits contemplent sa face. C'est une profonde méditation, je trouve, sur les vérités qui concernent l'Éternel. Sa gouvernance stable et souveraine. Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple et il a son trône dans les cieux. Lorsque tout s'ébranle, tout semble s'ébranler, parce que ça n'est qu'un ébranlement apparent. Ici, il y a des choses, les choses semblent qu'il n'y a plus personne aux commandes, que tout part en vrille. Eh bien, il dit, l'Éternel est dans son saint temple et il est sur son trône. Autrement dit, il règne. Et tout ce que je vois qui semble se disloquer, qui va partir dans n'importe quel sens, il dit, cela est contrôlé par Dieu. Cela ne lui échappe pas. Et donc, la réalité pour lui, c'est que Dieu est là, il est dans sa sainteté et il règne sur le monde, même si on voit des difficultés, même si des gens meurent à cause d'un virus ou à cause d'autre chose, même si les mouvements politiques se font ci et là, même si des bruits de guerre à droite et à gauche se font entendre, même si la Turquie ouvre ses frontières pour qu'il y ait un flot de migrants qui rentrent en Europe. Toutes ces choses, quand elles arrivent, il ne faut pas oublier que l'Éternel est dans son saint temple et qu'il règne. Le psaume 29, verset 10 dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Hein? Il n'était pas absent. C'est pas parce qu'il était absent que les choses se sont passées vite. Non, il était là. Il était aux commandes même de ces choses. L'Éternel, psaume 29, 10 dit, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Éternellement. Et c'est ce qui, sur quoi David médite. Hein? Dans toute sa situation, dans toutes les difficultés qu'il a, il pense aux réalités qui concernent Dieu. Et il médite sur ces choses. Sa gouvernance stable et souveraine. Deuxièmement, sa connaissance infinie des choses et des hommes. Regardez versets 4b à 5a ici. Il dit que Dieu, ses yeux regardent. Alors bien sûr, Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. D'accord, on l'a dit tout à l'heure, hein. Il n'a pas de corps, mais c'est une manière pour que nous puissions saisir ce que Dieu fait. Alors, Dieu parle à notre manière, hein, pour qu'il descende notre niveau, pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc, il dit ici que ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste. Et Dieu ne regarde pas les infos pour savoir ce qui se passe dans le monde. Hein? Il ne reçoit pas de notifications sur son portable. Il n'y en a pas, d'accord? Il sait tout ce qui se passe, tous les événements, absolument rien ne lui échappe. Non seulement il connaît tous les événements, mais il connaît ce qui se passe dans le cœur de chaque individu. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, il sonde les fils de l'homme, il pénètre, comme le psaume 139 dit, hein, la parole n'est pas sur ma langue que Éternel, tu la connais déjà entièrement. Tu pénètres de loin ma pensée. Et David médite sur ces choses. Dieu connaît toutes ces choses. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de ces méchants. Il le sait absolument. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Aucune créature n'est cachée devant lui. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Et il sonde aussi le juste. On a lu tout à l'heure, hein, qu'il ne dort ni ne sommeille, celui qui te garde. Donc David exprime la connaissance que Dieu a de la situation. C'est une bonne réponse que doit avoir l'enfant de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il sait exactement ce qui se passe. Et on peut se confier, même si nous ne comprenons rien de la situation, dans le fait que Dieu contrôle et qu'il connaisse parfaitement ce qui se passe, et que ce qui se passe n'est pas sans sa volonté. Si le malheur nous atteint, ça n'est pas sans sa volonté, sans son contrôle, sans sa sagesse, sans sa bonté, sans son amour. Parce que Dieu est ce qu'il est dans tout ce qu'il fait. Dieu est ce qu'il est dans tout ce qu'il fait. Et il n'est pas désintéressé par ce qui se passe sur la terre. Vous voyez, il regarde, il sonde, il voit. Et Jérémie dit ceci, dans Jérémie 17, verset 10, il dit, « Moi, l'Éternel, donc de la part de l'Éternel, il dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. » Ici. Dieu sonde les cœurs et les reins. Et puis, troisièmement, ici, dans cette méditation que David a sur les réalités concernant Dieu, il parle de son juste jugement. Il dit, « Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Alors, c'est intéressant ici de considérer la chose. David dit que Dieu, il dit pas que Dieu est la méchanceté, il dit qu'il est le méchant. Nous avons tendance à dire, Dieu aime le pécheur, d'une certaine manière, c'est vrai, mais et il est le péché. Mais ici, on voit que Dieu est aussi celui qui fait le mal. Il y a beaucoup de psaumes qui affirment cette vérité. David souligne que non seulement Dieu sait tout ce qui concerne les hommes, mais qu'il juge avec justice. Et regardez le psaume 4, versets 5 et 7. C'est pas très loin dans votre Bible. Psaume 4, versets 5 et 7. Il dit ceci. Psaume 5, versets 5 et 7. Il dit, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. » Et verset 6, deuxième partie, « Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Il n'a pas dit « Tu hais l'iniquité ». Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tous ceux qui font le mal et qui passent le mal, ils sont l'objet de la haine de Dieu. C'est ça que ce passage dit. Et il nous faut le prendre tel qu'il est écrit ici. Il dit, verset 7, tu fais périr les menteurs. Il n'est pas dit tu fais périr le mensonge, tu fais périr le menteur. Et l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Il a une haine pour ceux qui font le mal, qui ne se détournent pas du mal. Psaume 7, verset 12. Regardez Psaume 7, verset 12. Il dit, Dieu est un juste juge. C'est ce que David dit. L'Éternel, hein, il dit, hein, est juste et il aime la justice. Verset 12, il dit, donc Psaume 7, Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Pas hier seulement. Pas un jour dans l'avenir, quand Christ va revenir, il s'irrite en tout temps. Ici. Il dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. C'est fort comme expression, hein? Il vise. Et croyez-vous qu'il va rater sa cible? Non. Il dit, si le méchant ne se convertit pas, Dieu est un juste juge qui punira le méchant. Et donc David s'en remet à Dieu. Il n'a pas besoin de se venger. Il s'en remet vraiment à celui qui juge justement. Et ce passage est un appel à la repentance ici. Parce qu'il y a la conversion. Parce qu'il dit, si le méchant ici ne se convertit pas, Dieu aiguise son glaive et il bande son arc. Verset 14, il dirige sur lui ses traits meurtriers. Et il rend ses flèches brûlantes. Voilà ce que fait Dieu contre le pécheur qui ne se repent pas. Alors je voudrais juste terminer en disant que ce psaume 11 nous appelle à considérer la réponse que nous apportons en tant que chrétiens, parce qu'il s'adresse au juste. Quelle réponse le juste donne dans les temps de crise ? Et que nous avons une réponse à donner au monde, à ceux qui nous entourent, à nos frères et sœurs, dans la manière avec laquelle nous répondons aux circonstances difficiles. Est-ce avec une véritable confiance en Dieu? Est-ce avec des est-ce que nous recherchons vraiment à ce qui correspond à notre profession de foi, ou nous laissons-nous tenter par les solutions, les facilités du monde. Ou prenons-nous en main nous-mêmes la gestion de notre crise, hein? Je vais gérer ça moi-même. Non. Ou est-ce que nous abandonnons à Dieu toutes ces choses? C'est un témoignage que nous avons à rendre. Et nous sommes regardés, David était regardé par ces gens, et nous sommes en tant qu'enfants de Dieu regardés avec la manière dans laquelle nous gérons cette crise dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous faisons quand même confiance à Dieu? Est-ce que nous aimons le rassemblement dans lequel Dieu nous appelle? Est-ce que l'Église a pour nous une importance? Est-ce que Jésus-Christ a pour nous une importance? Est-ce que les frères et sœurs ont pour nous toujours une importance? Ou est-ce que je vais faire comme tout le monde, chercher à m'isoler le plus possible? Parce que sinon, eh bien, je vais être atteint par les flèches du Covid ou autre chose, hein, ici. Nous devons aussi accepter la réalité des dangers. David ne s'étonne pas des menaces qui pèsent sur lui. Il ne le sous-estime pas non plus. Il n'est pas dans le déni de réalité. Il reconnaît l'extrême dangerosité de la situation parce qu'il parle de refuge. Je cherche mon refuge, l'Éternel. Celui qui cherche un refuge, c'est quelqu'un qui est dans danger. Donc, il reconnaît qu'il y a danger. Il n'est pas dans le déni. Danger. Mais il accepte cela comme une réalité. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Autrement dit, le malheur dans la vie du juste n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas exceptionnel. C'est l'ordinaire. Si la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, c'est que quand c'est souvent, c'est que c'est pas exceptionnel. C'est que c'est ordinaire. Et l'apôtre Pierre dit la même chose. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive d'être dans la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Les dangers ont toujours existé et la Bible n'a jamais promis aux croyants qu'il sera épargné des dangers, qu'il ne mourra pas quand il y a des dangers. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas été le cas pour l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus a connu les difficultés quand il était aussi sur la terre. Le temps dans lequel nous vivons de paix est exceptionnel dans l'histoire du monde. Vous savez ça? C'est exceptionnel. Hein? Si vous prenez sur une longue échelle l'histoire du monde, elle est beaucoup plus marquée par des guerres, des famines, des pestes, des épidémies, que par des temps de paix et de prospérité sanitaire. Donc ce qui est exceptionnel, c'est la paix. Entre guillemets, la tranquillité dans laquelle nous vivons, au moins dans cette partie du monde dans laquelle nous nous trouvons. Et donc c'est pour cela qu'il faut être vigilant et ne pas brandir son droit à la santé comme les gens le font maintenant. Je lisais un article où les spécialistes disaient que aujourd'hui, avec la situation sanitaire que nous vivons, les gens n'acceptent plus de mourir pour une épidémie. C'est hors de question. Dans leur tête, le gouvernement doit faire quelque chose. Ils ont droit à la vie. Il est impensable qu'au 21e siècle, on meure à cause d'un virus. La médecine a fait trop de progrès pour cela. Et Dieu montre que il n'y a pas tant de progrès que ça. Que c'est lui qui décide de toutes choses. Et que c'est en lui qu'il faut placer notre confiance. Même si nous prions pour qu'il y ait un vaccin. Mais c'est en lui que nous plaçons notre confiance et notre refuge. Et puis, je vais dire ceci, la véritable menace pour le juste, c'est pas la flèche ou les coups des méchants, comme c'était présenté à David, mais c'est l'abandon de la confiance en Dieu. C'est ça qui est souvent la véritable menace dans les situations, parce que Satan se sert de chaque situation pour nous faire prendre une route qui est contraire à la volonté de Dieu. Ici. Et chaque situation, n'oublions pas, est un test pour notre foi. La contagion du virus est moins contagieuse, est moins dangereuse que la contagion des pensées du monde et de l'attitude du monde dans la situation. Ce qui est en jeu pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est le fait d'épouser et d'embrasser la manière de réfléchir du monde dans ces situations difficiles et de nous détourner de Dieu. Donc nous devons être extrêmement vigilants à cela. Et pour être fondé certain en Dieu, eh bien, nous avons ce que dit le prophète Isaïe. Ici, il dit que Dieu dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Vous voyez ici, celui qui, quand les fondements s'ébranlent, celui qui aura placé sa confiance en Jésus-Christ, la pierre angulaire, et qui l'aura pris pour appui, il n'aura point hâte de fuir, comme le frère l'a dit tout à l'heure, parce qu'il sait que sa sécurité est garantie en Jésus-Christ, et que quoi qu'il arrive, il est à moi et je suis à lui. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, et nous te demandons de nous aider encore à bien la saisir, Seigneur, à ne pas agir comme le monde agit, mais à chercher en toi notre refuge, et à refuser, Seigneur, de nous laisser tenter par les solutions du monde. Donne-nous d'être sages, d'avoir du discernement, et d'avoir une attitude qui te plaise, un témoignage qui soit efficace auprès de ceux qui nous regardent vivre dans ces temps particuliers. Que ton nom soit béni. Amen.